Roma.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Terre. Comme chaque mercredi sur France Culture, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h30. Dany Journeau, Clément Berman et Catherine Madure nous accompagnent en régie. Vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Cette semaine, inventaire avant élection oblige, Planète Terre poursuit son exploration de la nouvelle géographie de la France. Après l'émission sur les cartes de la France de demain, toujours en ligne sur le site web de France Culture, nous mettons aujourd'hui la focale sur la métropolisation de la France. 26 millions et demi. Oui, 26 millions et demi, c'est à peu près le nombre de personnes qui habitent, travaillent et vivent dans les 17 aires urbaines métropolitaines de France, c'est-à-dire dans les 17 agglomérations de plus de 400 000 habitants. Ça fait 45% de la population hexagonale. Pourtant, l'illusion d'optique est tenace. Ces 17 aires métropolitaines d'urbanisation continue, donc, étaient bien loin d'occuper 45% de la superficie de la France. Du coup, elles n'éliront pas, loin de là, 45% des députés en juin prochain. Et pourtant, la notion de métropolisation désigne bien plus que le rôle absolument central des grandes villes. Elle nomme aussi le fait que l'urbain enveloppe l'ensemble du territoire français, de la société française et de l'économie française, même les campagnes. Michel Lussault indiquait dans l'émission de la semaine dernière que 97% du territoire français est désormais urbain. Terminé donc le territoire découpé en régions plus ou moins rurales, qu'elles fussent agricoles ou industrielles, et polarisé par des capitales historiques. Disparue l'armature urbaine de villes connues pour leur spécialisation économique et hiérarchisées en fonction de leur éloignement à Paris. Et si de nos jours, de Lille à Toulouse via Nantes, de Montpellier à Metz via Grenoble, chaque métropole affirme son récit culturel, touristique et visuel, c'est que leur fonctionnement et leur rôle se ressemblent, sinon tous, en tout cas de plus en plus. Alors, la métropolisation permettrait de rendre compte de la France au plus près de ce qu'elle est. Un espace d'économie tertiaire qui imbrique les services de proximité peu qualifiés, rendus par des travailleurs invisibles ou anonymes, et les emplois très spécialisés et très bien rémunérés des sièges sociaux et du conseil aux entreprises. Ces métropoles hyper connectées entre elles, théâtre de mobilité tous azimuts, donnent au territoire français son unité et sa continuité européenne. Et pourtant, chacune d'elles est dilatée, segmentée entre différents quartiers qui s'ignorent et des communautés sociales tentées non plus par la lutte des classes, mais par l'entre-soi et le rejet de la promiscuité. L'ingouvernabilité, sinon par des oligarchies, serait le signe de l'existence d'une métropole, va même jusqu'à se demander Gilles Pinson, l'un de nos deux invités. La métropolisation de la France entre hypermobilité et fragmentation, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Nous la décryptons, cette métropolisation de la France, avec deux des animateurs de Territoire 2040, l'étude que vient de publier la DATAR sur les systèmes spatiaux français. Il s'agit de Nadine Catan et de Gilles Pinson. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nadine Quintan, vous êtes géographe, directrice du laboratoire Géographie Cité. Quant à vous, Gilles Pinson, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lyon. Vous êtes d'ailleurs en duplex depuis les studios de Radio France Lyonnais. Et je salue nos collègues. Et vous êtes également co-directeur de la revue en ligne Métropole. Alors ma première question est assez simple. Commençons par le début. Comment peut-on expliquer une telle diffusion de l'urbain sur le territoire français? Peut-on aller jusqu'à dire que la France est devenue une immense aire urbaine? Nadine Catan.
Oui, merci pour la question. Je pense en effet que vous avez totalement raison. Les catégories classiques de lecture du territoire français et des territoires en général, entre urbain, rural, grande ville, petite ville, sont appelées totalement à disparaître. Nous pouvons parler aujourd'hui, nous pouvons évoquer d'autres images comme le village global, par exemple. Je privilégie l'image de l'archipel qui nous dit en fait que nous changeons aujourd'hui de paradigme, nous changeons de perception de nos territoires.
Mais alors pourquoi, Nadine Catan, y a-t-il une telle permanence, on va dire, de ces paradigmes dont vous dites qu'ils sont dépassés?
Parce que je pense que nous ne plaçons pas assez dans nos perceptions la réalité mobile. Nous sommes dans des sociétés où la sédentarité est quelque chose de très ancré. Je pourrais parler de métaphysique de la sédentarité. Et je pense que c'est à cause de cela que nous n'arrivons pas à aller au-delà de ces schémas duaux binaires. De nos appréhensions.
Cette sédentarité dont vous parlez, Nadine Catan, c'est une sédentarité, disons, dans les têtes. Est-ce que c'est une représentation ou est-ce que c'est encore une réalité dans l'habité géographique, dans les activités géographiques, dans l'espace géographique vécu?
Oh, il me semble qu'elle est beaucoup plus dans les têtes et dans nos projections, en fait, puisque nous sommes encore dans des perceptions où nous projetons, nous appréhendons les choses et nous nous approprions les lieux dans des identités racines, en fait. Et il faudrait totalement changer, modifier la donne et modifier nos perceptions et passer à ce que on pourrait appeler l'identité rhizome, pour reprendre par exemple l'expression de Deleuze, qui intégrerait beaucoup plus la fluidité et surtout... Il y a un mot que je voudrais dire en fait par rapport à cette urbanisation généralisée ou métropolisation généralisée de la France. Nous sommes aujourd'hui dans des territoires hybrides, dans une hybridation totale où il faut prendre en considération, pleinement en considération, tout ce qui est un peu éphémère, tout ce qui est l'inter, le passage. Voilà.
Alors, vous savez, Nadine Catan, que cette notion, disons, de mobilité, de fluidité, que vous opposez ici à une sédentarité qui resterait culturellement très présente, il arrive qu'elle soit discutée ou contestée. Je prends par exemple, c'est Daniel Letouzet, responsable du site ClioWeb, qui avait attiré mon attention là-dessus suite à l'émission de la semaine dernière. Il disait que lors d'une table ronde sur Normandie demain, organisée par Pascal Bulléon, géographe que nous avons reçu ici il y a quelques années, Sylvie Le Calvez, directrice d'une revue qui s'appelle L'Esprit Village, avançait le chiffre suivant. Selon elle, moins de 10% des salariés travaillent dans une mobilité choisie. Donc, elle ne contestait pas l'idée qu'il y avait bien un grand développement de la mobilité. Mais par contre, est-ce que vous pensez qu'il faut prendre en compte cette variable, disons, d'une mobilité certes réelle mais subie par opposition à une mobilité choisie, et que donc à partir de là, ça nous amènerait un peu, ou ça vous amènerait un peu, vous, les géographes de la métropolisation, à infléchir, disons, le diagnostic qui est le vôtre?
En fait, quand on parle effectivement de mobilité choisie et de mobilité contrainte, on pense encore une fois toujours les territoires en termes économiques. Et donc, nous, là encore, nous figeons quelque chose, nous figeons notre perception sur les flux, sur les domiciles-travail, en fait, sur les déplacements domicile-travail. Or, il y a une large palette d'échanges qui n'est absolument pas prise en compte et qui aujourd'hui augmente de plus en plus, qui est effectivement le loisir. Et nous ne savons pas ni le quantifier, parce que nos organismes ne savent pas aujourd'hui pour l'instant prendre tout cela en considération, les city trips, les déplacements très courts, de courts séjours dans les grandes métropoles européennes, qui fait justement que cette urbanisation, ce réseau des métropoles devient aujourd'hui en fait un mode de vie qui hybride nos identités et qui façonne, j'ai envie de dire justement, peut-être une nouvelle géographie, une nouvelle perception des territoires.
Alors Gilles Pinson, je me tourne vers vous, donc vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette interrogation que je relaie ici sur mobilité choisie, mobilité contrainte, comme étant bien entendu un peu une synecdoque, on va dire, finalement, d'une métropolisation qui aurait pour conséquence une dualisation de la société française, liée elle-même à une dualisation de l'économie, puisque si je vous ai bien lu, encore une fois, vous êtes avec Nadine Catan l'un des 7 responsables de ce travail tout à fait intéressant qui s'appelle Territoire 2040, mis en œuvre par la DATAR. Vous mettez plutôt l'accent, pas uniquement, mais vous mettez plutôt l'accent, Gilles Pinson, sur, on pourrait dire, le côté obscur de la force métropolitaine.
Alors effectivement, moi je crois qu'effectivement on peut aujourd'hui parler d'urbanisation ou de métropolisation de la France. C'est-à-dire que si jusqu'à il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on pouvait nettement distinguer ce qui relevait d'une vie à la ville et d'une vie à la campagne, si les pratiques culturelles, si les occupations économiques, les formes d'emploi étaient très distinctes, aujourd'hui il n'y a plus cette forme de distinction, ça c'est clair. Donc on a une forme d'urbanisation généralisée qui pose la question de la survie de l'urbain ou de la mort de cet urbain. Néanmoins, je crois qu'il faut toujours avoir en tête que si effectivement la mobilité aujourd'hui est un critère de plus en plus discriminant pour s'insérer économiquement et socialement, pour avoir accès aux loisirs, etc. Il ne faut surtout pas, je pense, considérer qu'aujourd'hui, nous sommes tous égaux devant la mobilité. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de groupes sociaux qui ne pratiquent très peu la mobilité, alors qu'ils la pratiquent de manière très contrainte pour aller au travail, par exemple, mais qui, par ailleurs, pour leurs loisirs, ont des pratiques de mobilité très, très restreintes. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête qu'aujourd'hui, les visions qu'on produit de la métropole sont largement tirées de l'expérience de la fraction de la société ou des fractions de la société qui sont le plus intégrées dans une économie globalisée. Mais il y a toute une armée de groupes sociaux derrière qui, au contraire, eux, sont contraints à l'immobilité, ont des difficultés d'accès à la mobilité. Je prends un simple exemple lyonnais. Au Grand Lyon, il y a une politique publique menée par le Grand Lyon pour lever les freins à la mobilité de certaines personnes qui sont en difficulté économique et sociale. Et cette aide à la mobilité n'est pas uniquement une aide économique, leur permettant de se solvabiliser pour avoir accès aux moyens de transport, c'est aussi une aide cognitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une bonne partie de la population qui s'est pas mise au niveau, j'aime pas tellement le terme, mais n'a pas suivi le train des populations les plus insérées économiquement et socialement.
C'est
et
le cas de le dire.
Qui a de la peine à justement se retrouver dans cette norme de l'hypermobilité et qui a besoin d'aide. Donc hypermobilité, hyperfluidité, moi je suis d'accord, mais effectivement il faut quand même regarder groupes sociaux, territoire par territoire, comment se distribue cette capacité à se mouvoir et cet accès à la mobilité.
Mais est-ce que du coup, Gilles Pinson, vous iriez jusqu'à considérer que cette gigantesque aire métropolitaine que serait devenu le territoire français, d'une certaine façon, recouvrirait des territoires plongés dans l'ombre, en fait, c'est-à-dire des territoires traversés, ceux qui se trouveraient entre les métropoles? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça?
Oui, je crois que, encore une fois, cette vision d'une France qui ne serait plus qu'une, qui serait un immense réseau de villes ultra connectées, c'est encore une vision qui traduit une espèce d'ethnocentrisme de classe très fort. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui énormément de sédentaires dans nos villes. On a encore énormément de gens dont l'horizon de vie, dont l'horizon de la mobilité se limite souvent à la commune, à l'agglo, à une ville et à un certain nombre de lieux de loisirs qui l'environnent. Et encore une fois, ces gens-là ne sont pas dans ce réseau des villes françaises et encore moins dans ce réseau des villes européennes et mondiales.
Oui, mais...
les city trips sont quelque chose d'assez inaccessible et même qui ne rentrent pas dans leur perception, disons.
Serge Gilles Pinson, mais en même temps, si on suit par exemple les analyses proposées par Saskia Sassen, non seulement dans la ville globale, mais aussi dans sa sociologie de la globalisation, on voit bien que pour elle, est un signe de métropolisation le fait que se trouve concentré dans ces immenses agglomérations, ce qu'elle appelle la grande classe globalisée des invisibles, qui sont en particulier issus de mobilité migratoire.
Oui.
Donc, de toute façon, le fait même de considérer qu'il y a, on va dire, une ambiguïté ou une ambivalence de la mobilité, ça ne disqualifie pas pour autant l'analyse d'une métropolisation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, du tout. Et simplement, il faut être sensible, je pense, à des expériences de la métropolisation qui sont extrêmement variables. Effectivement, vous avez raison de dire que la seule variable n'est pas qui pèse sur cette capacité à être impliquée dans cette métropolisation n'est pas uniquement la variable économique ou de statut social. Effectivement, aujourd'hui, on a des diasporas des populations migrantes très pauvres et extrêmement mobiles. Et à côté de ça, vous avez des classes moyennes en voie de déclassement qui, elles, sont contraintes à une certaine sédentarité dans la métropole, du fait notamment qu'elles ont acheté, qu'elles ont accédé à la propriété, qu'elles ont des difficultés économiques à se mouvoir, qu'elles sont piégées dans des espaces périurbains. Donc, métropolisation, d'accord, mais une métropolisation qui est vécue de manière très différenciée d'un groupe social à l'autre.
Nadine Catan, je me tourne à nouveau vers vous. Donc, on a bien compris, ces 17 aires métropolitaines, d'une certaine manière, traduisent ou produisent même une certaine homogénéité. Est-ce que ça veut dire, Nadine Catan, que ce qu'on a tous appris quand on était élève ou étudiant, et qui est encore, me semble-t-il, très véhiculé dans les représentations géographique ou dans la manière dont la géographie de la France est encore aujourd'hui popularisée. Est-ce que ça veut dire que cette fameuse armature urbaine, d'une hiérarchie urbaine avec une tête de réseau qui est Paris et la région parisienne. Et puis on l'appelait, hein, vous vous souvenez, dans les années 70, même dans les années 60, on parlait des métropoles d'équilibre. Est-ce que ça veut dire que cette manière de voir les choses, une espèce de distribution en fonction de la population, en fonction de l'accès aux fonctions et aux services, c'est totalement terminé, ça, maintenant? On ne peut plus présenter la France urbaine comme ça. Et d'ailleurs, il faut arrêter de parler de France urbaine, puisque la France est urbaine.
Alors, je partage cette, votre analyse sur... Alors, est-ce que c'est, comme vous dites, est-ce que c'est la fin d'une réalité ou est-ce que c'est notre manière de voir les choses qu'il faut modifier? J'ai envie de dire, ce sont les deux. Pourquoi? Parce que la hiérarchie urbaine telle que nous l'avions appris, comme vous dites, renvoie à une appréhension des territoires et du développement territorial qui repose en particulier sur la taille des villes et la distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un territoire, plus une ville est grosse, plus elle est visible. Et cela, je pense aujourd'hui qu'il faut absolument ne plus penser le développement territorial uniquement par ce biais-là. Pour cela, c'est toujours mon même mantra, j'ai envie de dire, si on poursuit la chose. Il faut absolument savoir intégrer aujourd'hui, dans notre conception du développement territorial, l'interrelation, les articulations entre les territoires. Donc penser de plus en plus le développement, les stratégies territoriales dans un entre-deux.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple ?
On peut absolument prendre un exemple, par exemple. Si je prends Bordeaux aujourd'hui, la ville de Bordeaux, vous avez parlé de 17 aires urbaines, de 17 grandes aires urbaines, etc. Moi, si je prends l'aire urbaine de Bordeaux, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les villes ne sont plus seules pertinentes pour justement analyser le développement territorial. Il faut penser en termes d'articulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser Bordeaux comme un réseau de 15 villes qui s'étend autour d'elle en étoile. Ça veut dire concrètement, ça s'étend de Périgueux et Agen au sud-est. Ça prend également en compte Mont-de-Marsan et Arcachon à l'ouest. Et ça s'étend jusqu'à Royan et Angoulême au nord. Donc on a là un territoire urbain, un réseau qui fait 1 850 000 habitants. Mais il ne faut pas s'arrêter là non plus. C'est-à-dire, il faut regarder même au-delà de la proximité quand on pense justement cette déconstruction peut-être d'une armature urbaine figée. Bordeaux est connecté à l'échelon national dans une interterritorialité intermétropolitaine à 21 autres villes. Elle est connectée à Lyon, elle est connectée à Toulouse, bien sûr, mais elle est connectée aussi à Nice, à Lille et à Strasbourg. Et justement, l'enjeu, il me semble, aujourd'hui, c'est de savoir présenter ce territoire-là comme une ressource pour la ville de Bordeaux, mais également pour les autres territoires. Et peut-être savoir le présenter à un investisseur. Voilà.
Gilles Pinson, cette réalité que vient de décrire, ou plutôt que vient de diagnostiquer Nadine Catan, parce qu'encore une fois, quand on en reste aux descriptions classiques, c'est pas ça qu'on entend. Est-ce que vous, qui êtes un politiste, vous imaginez qu'il faudrait lui donner, d'une manière ou d'une autre, une traduction politique en termes d'intervention des citoyens dans la sphère publique, ou même mieux, est-ce que vous pensez que d'ores et déjà, il y a des nouvelles formes d'être citoyens qui prennent en compte ou qui sont en train de découler de cette nouvelle réalité, disons, d'une métropolisation connectée qui caractériserait pour partie le territoire français.
Je crois que Nadine Catan a évoqué le mot-clé, c'est le terme d'interterritorialité. C'est vrai qu'on a une grande lubie institutionnelle, politique, alors aidée en France par notre pulsion institutionnelle qui consiste à dire, ben voilà, on a des territoires fonctionnels qui grandissent, donc il faut essayer d'avoir des institutions qui s'ajustent à ces échelles fonctionnelles. Sauf qu'on sait très bien que ces échelles, soi-disant fonctionnelles, elles varient d'une thématique à l'autre. Les échelles des transports ne sont pas forcément celles des bassins d'emploi, etc. Donc il y a une espèce de course-poursuite infernale entre les territoires des mobilités, les territoires économiques et puis les territoires institutionnels. Pour ma part, je ne suis pas absolument sûr qu'il faille continuer à être dans cette lubie institutionnelle de faire coller des institutions aux vraies échelles de la métropole, mais peut-être réfléchir plutôt, d'une part, à des manières de faire coopérer des territoires, alors communaux, intercommunaux, existants, pour prendre en charge des problèmes de politique publique que pose cette métropolisation. Et puis d'autre part, il faut peut-être réfléchir à des nouvelles conceptions de la représentation. Aujourd'hui, la représentation politique, elle est liée à la résidence, elle est liée à la fixité, elle est liée à ce que Nadine évoquait, la sédentarité. On vote là où on dort, hein, d'où l'expression, alors je crois qu'elle est de Jean-Marc Hoffner, mais je ne suis pas absolument sûr, de démocratie du sommeil. Voilà. Donc,
jolie expression, tout voilà. À fait ambivalente.
Donc effectivement, on reste sur cette idée-là de la représentation politique.
Mais alors ça serait quoi, Gilles Pinson, l'antonyme de démocratie du sommeil ? Eh ben, on voterait où alors ? Ou alors peut-être qu'on vote plus, peut-être que ça passe par autre chose.
Voilà, exactement. Peut-être que les formes d'implication politique de citoyenneté doivent s'imaginer au-delà de la simple délégation, de la simple représentation politique. Et peut-être que, justement, je pense que dans la question de la démocratie représentative délibérative, il n'y a pas uniquement la question de renouveler le rapport entre les élus et les représentants. Il y a aussi, et je pense que ce débat-là n'est pas assez développé en France, toute une réflexion sur d'autres manières de participer collectivement, de s'impliquer localement, etc. Donc, est-ce qu'il faut penser à des formes d'implication des citoyens à l'échelle de bassins de mobilité ? Est-ce qu'il faut penser à leur implication dans la gouvernance de services publics de mobilité, de services publics de santé, etc., etc. En tout cas, moi, je n'ai pas de solution unique et je pense qu'il n'y en a pas de solution unique. Il faut tout simplement se préparer mentalement à des démocraties en tâche de léopard avec des formes hybrides, variées d'expression de la souveraineté, d'expression des citoyens.
Nadine Quintan, je vous vois hocher la tête.
Oui, en effet, je rebondis sur ce que vient de dire Gilles. C'est totalement ça, en fait. Comment prendre en compte ces populations de passage ? On parle de populations présentielles. Et effectivement, comment ces populations peuvent être intégrées à cette gouvernance des territoires ? L'enjeu, en fait, d'après moi, et le défi des acteurs politiques serait de trouver aujourd'hui, peut-être même d'inventer, en fait, ces outils de régulation d'espace et de territoire où le fluide va dominer. Mais le fluide, j'ai envie de revenir un petit peu là-dessus, ce n'est pas seulement en fait le déplacement réel. En fait, la mobilité ne se réduit pas seulement à ça. La mobilité et le fluide, c'est également la capacité à mobiliser et à jouer aujourd'hui des canaux de circulation et de communication. Et ça peut être quelque chose de...
Là, vous pensez au numérique, notamment.
Par exemple, voilà. Et ça peut être investi également par d'autres populations que celles, effectivement, auxquelles peut-être on pense spontanément, comme le disait Gilles, aux élites
oui,
circulantes
mais en
ou
même
des
temps,
choses comme
ça. Et là, je rebondis à mon tour en m'adressant à tous les deux, Nadine Quintan et Gilles Pinson. Les réseaux numériques, c'est formidable, mais en même temps, on est dans un tout autre modèle que celui du développement des infrastructures et des services publics. Les réseaux numériques qui servent effectivement à fabriquer, disons, aux métropolitains, aux gens qui habitent les aires métropolitaines, de se retrouver entre soi pour éviter la promiscuité, ce que vous appelez l'un et l'autre, si je vous ai bien lu, la connexité que vous opposez à la contiguïté, à la différence des grandes infrastructures, on va dire traditionnellement développées par l'État-providence et singulièrement en France par le colbertisme ou dans la tradition colbertiste, ce sont des réseaux et des services qui ont été entièrement créés et qui sont entièrement aujourd'hui propriété de très grandes entreprises privées, qu'on pense aux réseaux sociaux ou à un moteur de recherche bien connu. Donc, votre idée qu'il y a un nouveau type de démocratie territoriale qui se met en place, comment s'articule-t-il avec cette réalité-là, Gilles Pinson ?
Alors... Je pense que d'abord, il ne faut jamais oublier que ces nouvelles infrastructures-là, ce sont aussi par ailleurs des infrastructures, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de tuyaux, elles ont besoin de serveurs, donc il ne faut pas sous-estimer leur territorialité, leur ancrage territorial. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, des collectivités locales se mettent en tête, notamment de réduire la fracture numérique en développant des réseaux là où ils sont peu développés, où le marché ne n'a pas véritablement l'intention de les développer. Après, donc, premier élément. Deuxième élément, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui le lien social est davantage facilité par Facebook ou Twitter que par les mairies de quartier ou les conseils de quartier ou les conseils de développement? Peut-être, et en même temps, sur ces réseaux qui s'expriment, ce sont des gens qui ont une notoriété. Cette notoriété, elle est aussi souvent, parfois, liée à leur surface politique. Donc je ne pense pas que à travers ces outils, on aille nécessairement vers la perte de contrôle par les acteurs politiques ou institutionnels de ces outils de création de communautés.
Nadine Catan, Gilles Pinson, à l'instant, évoquait la notion de fracture numérique. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de fracture métropolitaine en France ?
Dans le sens où il y aurait des exclus de la métropolisation, en fait ?
Par exemple, ou bien dans le sens où il y aurait de l'exclusion au sein de la métropolisation, donc à deux échelles, en fait, à grande échelle et à petite échelle.
Oui, c'est évident qu'il y a des fractures à l'intérieur de la métropolisation, mais tout dépend de ce qu'on appelle finalement l'exclusion. Si on tend à parler en termes de mode de vie et mode d'appropriation de l'espace, je pense qu'on est tous métropolitains et je ne parlerai pas de fractures nécessairement métropolitaines. Par contre, si on parle effectivement tout ce que Gilles Pinson a évoqué en début d'émission sur les inégalités face à l'accès à certains services, à certains équipements, etc. Oui, bien sûr.
Comment expliquer, Gilles Pinson, qu'on soit depuis une vingtaine d'années, peut-être même 30 ans maintenant, qu'on assiste à une concentration tout à fait notable, me semble-t-il, des équipements, des infrastructures et des investissements urbains? Ça accompagne en même temps que ça motive le processus de métropolisation, mais c'est quand même une évolution, une rupture par rapport à ce qui s'est fait dans les décennies précédentes, me semble-t-il, non ?
Oui, et je pense qu'il faut vraiment aller chercher les causes de cette métropolisation et surtout pas en faire une espèce d'opération du Saint-Esprit qui serait simplement la traduction de nouveaux modes de vie, de nouvelles aspirations des populations. Je pense qu'il y a deux choses qui sont assez concomitantes. Il y a à la fois des transformations économiques, le passage du fordisme au post-fordisme.
Ça, c'est l'organisation du travail, donc.
Voilà, le fait qu'aujourd'hui, on assiste à une espèce de réurbanisation du développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la proximité spatiale est redevenue un outil de développement économique. On a besoin de la proximité pour innover, on a besoin de la proximité pour se positionner dans l'économie de la connaissance. Il faut innover en permanence, donc les entreprises ont besoin d'être présentes dans les métropoles où s'échangent les informations sur les marchés, les technologies, etc. etc. Donc il y a cette logique-là, certains parlent de passage à la spécialisation flexible, etc. Bon, il y a cette première idée... transformation économique, transformation des manières de travailler, des modes de production. Et puis, il ne faut jamais oublier quand même que la métropolisation est aussi très liée à la mondialisation néolibérale. Et cette mondialisation néolibérale, elle est très liée à des politiques publiques, à des choix politiques. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte entre métropolisation et globalisation, et ouverture des frontières, et dérégulation de certains marchés. Dans l'époque du fordisme, où l'État était un acteur très présent dans le développement économique.
Et où le marché de consommation était national, avec
était
une consommation de masse.
Protégé, la métropolisation était organisée de façon colbertiste, comme vous l'avez évoqué, par l'État. Aujourd'hui, la métropolisation, elle est aussi le produit d'un certain nombre de choix faits en matière de réduction des dépenses publiques, de concentration des équipements dans un certain nombre de villes. On le voit très bien sur les questions hospitalières, sur les questions d'enseignement supérieur, des recherches. Donc, il ne faut jamais oublier cet élément-là.
Eh bien, nous ne l'oublions pas, Gilles Pinson, mais l'émission touchant à son terme. Je vous remercie beaucoup pour vos précieux éclairages et merci beaucoup à vous aussi, Nadine Catan. C'était la métropolisation de la France entre hypermobilité et fragmentation sur Planète Terre. Sur le site web franceculture.fr, dans la rubrique Science, vous pouvez podcaster cette émission jour et nuit pendant une semaine, l'écouter en ligne autant qu'il vous plaira, réécouter celle de la semaine dernière et relire le billet que nous avions publié sur le blog de Planète Terre qui s'appelle Globe et qui s'intitulait « Vive la France est morte », si je me souviens bien, « Vive la France ». Voilà, la semaine prochaine, nous continuerons donc avec le troisième volet de cette série sur la nouvelle géographie de la France, des centres et des périphéries partout.